écologie, tous les jeudis soirs, de 20h30 à 21h30. Sur Fréquence Paris Pluriel. 106.3.
Bonsoir, il est 20h30, c'est Zoom Écologie. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3. Ce soir, les radioactifs et les radioactives vous proposent une émission consacrée aux résistances à l'informatisation.
Savez-vous que, depuis 2010, les éleveurs de chèvres et de brebis sont tenus de fixer des puces électroniques aux oreilles de leurs bêtes ? Certains s'insurgent contre cette mesure qui renforce le pouvoir de l'administration et du marché sur leur travail. Risquant de lourdes pénalités financières, ils ont diffusé des déclarations publiques affirmant leur refus de pucer leurs bêtes et de gérer leurs troupeaux par ordinateur comme un flux de matières premières.
Savez-vous qu'en 2012, des personnes travaillant dans différents secteurs des métiers du livre se sont réunies pour écrire l'appel des 451, dénonçant, entre autres, la concentration des capitaux et la déferlante technologique que subissent le livre et ses métiers? Derrière le bluff du livre numérique se cache la réduction des langages et des expressions libres. Le collectif des 451 continue de se battre pour que le livre et ses métiers demeurent un lien, une rencontre, un objet social, politique et poétique, entouré d'humains.
Savez-vous qu'en 2011, des médecins psychiatres se sont opposés au recueil d'informations médicalisées en psychiatrie qui implique l'enregistrement informatique de données personnelles concernant la vie privée des patients soignés? Ces médecins isolés ont soutenu leurs patients afin qu'ils puissent exprimer par écrit leur consentement ou leur refus de divulguer ce type d'informations.
La liste est longue de celles et ceux qui recusent l'influence de l'informatique sur leurs pratiques socio-professionnelles. Un groupe d'éleveurs refusant le puçage de leurs bêtes, des assistantes sociales qui boycottent la mise en place d'un dispositif d'enregistrement informatique de l'intimité des personnes, des professionnels du livre qui refusent de donner une forme numérique à un livre, des enseignants qui voient d'un mauvais œil bas élèves et la numérisation de l'école, des soignants qui ne supportent pas que l'on s'essaye de contenir leurs pratiques dans un algorithme, etc. Au carrefour de ces luttes et de ces questionnements se trouve une opposition au déploiement de l'informatique à des fins gestionnaires, phénomène qui touche de nombreux métiers.
Cette logique réduit les marges de manœuvre, sape les poches de dignité que beaucoup d'hommes et de femmes tentent de préserver au quotidien, en ville comme à la campagne. Elle contraint à nous auto-évaluer, à prouver notre utilité, à normaliser nos savoir-faire et nos relations aux personnes comme aux bêtes que nous écoutons, soignons et rencontrons. Nous perdons ces marges de manœuvre qui font que nous pouvons encore trouver du sens à nos pratiques. Nous ne souhaitons pas soumettre des relations complexes à un protocole rigide, les transformer en simples traitements de données, avec le contrôle que cela implique pour tous, tant pour les usagers que les professionnels. Quel progrès y a-t-il dans cette injonction à normaliser, à quantifier, à chiffrer, à informatiser, à ficher? Nous refusons de croire qu'un intérêt supérieur se cache derrière ce qui s'apparente à une logique capitaliste puissante, stimulée par des forces économiques en mal de confiance et en difficulté pour réguler la division toujours plus complexe des activités et du travail.
Les limites de nos réactions et de nos oppositions tiennent d'abord dans notre embarras à bien nommer et décrire ce qui nous est fait, et à se sentir en mesure de porter d'autres désirs, d'autres formes d'attention, d'autres valeurs, d'autres logiques. Elles tiennent aussi, c'est ce dont nous nous sommes aperçus, et ce qui fonde notre démarche, d'un manque de lien entre celles et ceux qui souhaitent résister à ces évolutions. Comment pouvons-nous nous unir pour refuser les incessantes compromissions qu'on nous demande au travers du management, du fichage généralisé et de l'informatique ?
C'est autour de cet appel que se sont tenues à la Casa Poblano à Montreuil, du 4 au 6 octobre, des rencontres pour libérer nos métiers de l'informatique et de la gestion. Elles ont réuni diverses personnes et collectifs, notamment Faut pas pucer et d'autres éleveurs réfractaires au puçage, le collectif des assistantes sociales et secrétaires de Seine-Saint-Denis, le groupe 451 pour les métiers du livre, des médecins psychiatres opposés au fichage des patients, la branche rouennaise du syndicat des travailleurs de l'éducation de la Loire. Pour poursuivre ces rencontres, qui se sont appelées Écran Total, créer des passerelles et des soutiens entre ces différentes luttes, une prochaine rencontre Écran Total se tiendra à Lyon, le week-end du 31 janvier.
Mais déjà, savez-vous qu'en 2011, un groupe d'assistantes sociales de Seine-Saint-Denis a dénoncé publiquement le fichage tout azimut des personnes s'adressant aux services sociaux et le recueil déchaîné de statistiques et de données personnelles ? L'administration veut faire entrer dans leur travail des démarches de rationalisation du temps, de l'écoute, des dossiers et des coûts. À travers le boycott des statistiques, elles défendent le fondement même du travail social, la relation d'aide inestimable et non mesurable. nous écoutons Kaltoum, assistante sociale, en grève des statistiques depuis 3 ans, qui nous explique les raisons de cette grève et plus largement ce que l'informatisation change à son métier. Un entretien mené par Bertrand, de Radio Zinzine, que nous remercions de partager avec nous ce soir.
Kaltoum, tu es assistante sociale et j'ai entendu dire que depuis 3 ans, tu faisais la grève des statistiques. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste et pourquoi tu fais ça ?
Alors, les statistiques, comme un peu partout, servent à l'administration à recenser non seulement le nombre de personnes reçues dans les services sociaux, dans ce département qu'est la Seine-Saint-Denis, mais aussi combien de personnes il y a dans la famille, leur catégorie socio-professionnelle, enfin tout ce qu'on connaît déjà à travers les statistiques. Et puis, au-delà de ça, ils nous demandent de remplir, bien évidemment, ce qui les intéresse un peu plus, c'est de savoir quelles sont les problématiques des gens, quelles difficultés les gens rencontrent, mais ils n'appellent pas ça des difficultés, ils appellent ça des problématiques. Et puis nous, en face, quel type d'intervention on met en place. Donc, concrètement, on peut résumer ça en questions-réponses. Donc, ils demandent qu'on recense un petit peu tout ça dans des grilles statistiques qui sont constituées quand même d'un certain nombre d'items, jusqu'à 300 items différents. Donc, c'était en 2011, où à la suite d'un bilan annuel, où justement, on nous présente le résultat de ces statistiques-là. Il y a eu une réaction très, très forte de l'ensemble des assistants sociaux et secrétaires qui étaient présents, qui s'est levé comme un seul homme et qui a dit « Stop, on en a marre de tous vos chiffres et de tout ça, de tout ce que vous nous racontez surtout ». Et que finalement, vous n'en venez jamais aux questions essentielles pour nous, c'est-à-dire comment faire en sorte que notre métier ne crève pas et qu'on continue à répondre un tant soit peu aux difficultés des personnes que l'on reçoit, notamment avec des moyens qui sont effectivement le logement, qui sont des moyens financiers qu'on nous sucre de plus en plus, et puis surtout être en nombre suffisant en face pour maintenir le fait de pouvoir parler avec quelqu'un, de pouvoir effectivement l'accompagner sur les difficultés qu'il exprime. Et puis, dans le fait que justement, on manque cruellement de postes dans nos services. Donc, à la suite de ce bilan annuel où effectivement il y a eu un élan comme ça, en début 2011, des assemblées générales d'assistants sociaux ont décidé d'opter pour une action qui était le boycott de ces grilles statistiques. Donc ça veut dire refuser de remplir ces grilles statistiques une fois dans l'année. Et donc ça dure depuis 2011, que à chaque fois ça demande à réaffirmer ce refus-là. Donc c'est ce qu'on fait. Et puis, ça demande aussi à chaque fois une discussion au sein des équipes pour avoir, une position commune de refus, ce qui est malheureusement pas toujours le cas et qui n'est pas unanime, mais qui existe, qui a existé quand même dans 2/3 des services en Seine-Saint-Denis dès la première année, en fait. 2/3 des services ont boycotté les statistiques annuelles, ne les ont pas rendues. Et depuis, effectivement, ça continue. Alors, eux font passer ça comme étant résiduel, mais ça les empêche finalement de rendre un bilan à tant soit peu cohérent, puisqu'ils n'ont pas l'intégralité des chiffres.
D'accord. Voilà. Et oui, vous avez, ces derniers jours, vous avez présenté aussi quelques petites scénettes qui exposaient un peu la transformation de votre métier face à cette volonté de quantification et d'informatisation même d'obligation de résultats, entre guillemets, enfin d'une espèce d'efficacité. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le côté, on essaie de formaliser le rapport aux personnes que vous assistez, que vous essayez d'assister, et la relation humaine disparaît, en fait, dans cette formalisation.
C'est exactement ça, et c'est la crainte, en fait. Alors, pour nous, les statistiques et l'informatisation, bien sûr, sont complètement liées, donc pour l'administration, ils veulent dissocier les deux domaines, mais nous, on les lie complètement. Et en fait, si tu veux, par rapport au fait de formaliser cette relation qu'on établit avec les gens, ça passe effectivement non seulement par remplir des statistiques pour rendre compte à une administration de ce qu'on fait, dans ce souci d'efficacité et dans ce souci aussi, tout simplement, de pouvoir saisir ce qu'on fait à l'intérieur d'un bureau, parce que tout ça est bien est bien complètement informel, est bien symbolique, est bien dans uniquement la relation, les mots, qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui passent par ça. Et ça, c'est assez insupportable pour une administration que de ne pas avoir une prise là-dessus. Donc, les statistiques servent à ça. Et puis, l'informatisation, ça sert aussi, alors ça, c'est mon point de vue uniquement, ça sert un petit peu à introduire un outil qui serait un outil tiers entre la personne et soi dans un bureau. Moi, je travaille, je suis sur la même table avec les personnes sont en face de moi et on discute. Ce qui se passe, c'est que sur le bureau, sur la table sur laquelle on est, autour de laquelle on est assis, il y a un ordinateur où on est censé saisir en même temps ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de dire, ce qu'on est... Donc concrètement, ça veut dire effectivement que au-delà de la formalisation de quelque chose qui est insaisissable pour l'administration, c'est surtout que finalement ça va complètement changer la relation que j'ai à l'autre. D'ailleurs, cette relation, elle va être d'emblée changée parce que je vais plus le regarder. Ou je vais le regarder par intermittence. Donc moi, ça m'a de suite, quand on m'a parlé d'ordinateur dans mon bureau, ça m'a fait penser à quand je vais chez mon médecin. Et quand je vais chez mon médecin, la première des choses qu'il me demande, c'est ma carte vitale. Il la met dans la petite boîte. Et puis tout de suite, il est figé sur son ordinateur parce qu'il faut ouvrir le dossier. Et là, tout de suite, moi ça m'a posé un problème parce que je me suis dit, mais tu vas ouvrir ton ordinateur, il va falloir que tu rentres un certain nombre de choses. Donc du coup, ces premiers temps d'entretien qui passent par des regards, des hésitations... parce que les personnes qui arrivent dans le bureau ne sont pas forcément tout de suite à l'aise. Donc il faut trouver les moyens de trouver un petit confort mutuel pour se parler, commencer à parler. Ouais. Et je me dis que en regardant un écran, de suite, ça va rendre encore plus compliqué et encore plus difficile ce début de relation qui n'est pas évident. Parce que effectivement, toutes les personnes qui rentrent dans mon bureau... Ou beaucoup, en tout cas, me disent que c'est difficile comme démarche, déjà, d'aller dans un service social et de rentrer dans le bureau d'une assistante sociale. Si, en plus, effectivement, je ne les mets pas forcément à l'aise parce que je vais être, effectivement, fixée sur un ordinateur qui va plus ou moins leur montrer que je ne suis pas concentrée immédiatement sur ce qu'ils sont en train de me dire, moi, ça m'est insupportable. Donc, voilà la formalisation. Mais au-delà de la formalisation, c'est ce qu'on disait dans les CNET. Quand on dit modification des pratiques, c'est des mots barbares, mais ça veut dire en fait que ça va dénaturer ce qu'on essaye d'emblée de garder, et surtout pas d'y toucher, qui est effectivement tout ce qui entoure la mise en place d'une relation avec quelqu'un.
D'ailleurs, dans votre Sénat, il y a aussi la direction, enfin la hiérarchie, votre hiérarchie qui essaye d'introduire un vocabulaire nouveau. Et visiblement, comme disait, vous citez cette phrase à plusieurs reprises, les personnes assistées sont des consommateurs de services et puis des gens qu'il s'agit d'écouter, quoi.
C'est ça. Toute la novlangue qui est utilisée par l'administration autour de l'écoute pour eux et l'accueil pour eux revêtent un sens complètement différent du nôtre. Simplement, ils vont toujours l'habiller d'un sens plutôt positif, d'une attention qu'ils veulent surtout maintenir de notre part vis-à-vis des personnes reçues, etc. Mais finalement, ils appellent quand même derrière les gens, les personnes qui viennent dans un service social, ils les appellent quand même consommateurs. Alors, c'est des mots qui sont apparus chez nous et qui ont été prononcés par des cadres il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Et bizarrement, je ne peux pas m'empêcher de croire que c'est aussi en lien avec l'expansion de l'informatisation, le déchaînement de recueils statistiques, et que ce discours-là sous-tend un petit peu tout ça. Mais consommateur de services sociaux, je n'avais jamais entendu ça. Ça fait quand même 14 ans que je fais ce métier. Et je me dis, d'où ils sortent ça? D'où ils sortent ça? Parce qu'en plus, c'est des mots qu'ils utilisent et qu'ils font porter aux personnes elles-mêmes qui viennent dans les services sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, ils disent, mais c'est les gens qui le disent. Ils viennent pour avoir un service et puis ils viennent pour avoir une réponse immédiate à ce qu'ils demandent. Donc, vous êtes là pour ça. Donc, les choses entendues dans les CNET, c'est des choses qu'on a entendues, bien sûr. C'est empreint de la réalité.
Vous êtes sur Zoom Écologie avec les radioactifs et les radioactives, et c'est une émission consacrée aux résistances à l'informatisation et à la gestion.
Savez-vous que depuis 2006, des enseignants du premier degré et des parents d'élèves s'opposent à la collecte centralisée de données nominatives concernant les enfants via le répertoire national identifiant élèves, ex-base élèves? Ils soutiennent les directrices et directeurs d'école qui, malgré les pressions et les sanctions exercées par leur hiérarchie, refusent de remplir ce fichier. Par extension, des professeurs du secondaire remettent en cause la place grandissante du numérique dans les établissements scolaires, que ce soit dans les pratiques d'enseignement, ordinateur, tableau interactif, tablette tactile, ou dans la gestion administrative, cahier de texte numérique, fichiers à données multiples mis en ligne. Ils y voient l'aboutissement de la transformation de l'école en un lieu où les élèves sont mis en conformité avec les exigences de l'économie, travail et divertissement assistés par ordinateur.
En septembre 2013, c'était donc la rentrée numérique. Pour nous aider à comprendre ces enjeux, un entretien avec Jean-Philippe, enseignant, mené à nouveau par Bertrand de Radio Zinzine, à l'occasion des rencontres Écran Total.
Jean-Philippe, tu es enseignant dans les lycées, collèges.
Oui.
Donc la rentrée numérique, comment ça s'est passé?
La rentrée numérique, dans l'académie dans laquelle je suis, c'est une rentrée qui est poussée comme au niveau national partout sur la promotion des technologies de l'information, de la communication tournée vers l'enseignement, ce qu'on appelle les TIS. Et donc c'est une rentrée particulièrement dans laquelle on essaye de promouvoir tout ce qui va être enseignement à distance, tout ce qui va être support informatique, plateforme, environnement numérique de travail. On arrive au bout de 2 ou 3 ans de dispositif dans lequel on a donné aux élèves de seconde un ordinateur à chacun. Et au niveau régional et au niveau académique, ça se développe. Et au fur et à mesure, ça s'étend dans les autres régions. Mais comme c'est des initiatives d'équipement et que l'équipement, ça dépend des régions, tout ce qui est dotation d'équipement et plateforme logicielle, plateforme réseau, etc., c'est la région qui s'en occupe et qui passe des appels d'offres à ce niveau-là. Donc c'est donc les régions qui poussent au don d'ordinateurs à des élèves. Alors certaines, c'est en sixième, certaines, c'est en seconde. Et c'est avec ça qu'on se retrouve et qu'on a à faire tous les jours, sachant qu'on a des élèves qui sont nés avec des téléphones et des ordinateurs. On a des élèves qui ont appris à taper leur nom avant de l'écrire. Donc ils savent taper leur nom avant d'avoir un rapport à l'écriture et au livre. Et on mesure au fur et à mesure ce que ça donne dans nos classes. Nos classes qui sont des endroits dans lesquels le professeur lui-même est suréquipé et surdoté de technologie, et où en face il a des élèves qui sont aussi équipés et dotés de technologie puisqu'ils ont un ordinateur, mais dans la poche 1, voire 2, voire 3 téléphones portables. En plus. Plus peut-être un MP3 ou une PSP, enfin tout ce qui peut être écran en plus. Leur temps scolaire est beaucoup lié à ça, les guerres liées à la vie scolaire sont beaucoup liées à ça, téléphoner, ne pas téléphoner dans les couloirs, écouter de la musique, ne pas écouter de la musique dans les couloirs, téléphoner, ne pas téléphoner en cours, et les comportements à la maison sont aussi énormément liés à ça. Alors on a des parents d'élèves par exemple qui viennent dire « c'est la catastrophe, mon fils est 6 heures par jour sur Facebook ». Ma fille, c'est la catastrophe. Mon fils joue 4 heures par jour en réseau à Call of Duty ou à GTA 4. Voilà.
Et du coup, ça induit des perturbations dans l'attention des élèves vis-à-vis du cours ou un certain nombre de choses dans cet ordre-là.
Les élèves ont une grosse difficulté à se concentrer. Ils ont une demande un besoin en permanence d'être divertis, sinon ils n'écoutent pas, d'être sollicités, stimulés et divertis, sinon ils n'écoutent pas. Et quand ils écoutent, pour beaucoup, ils ont une incapacité à retenir et mémoriser. Les études montrent que cette génération a une capacité importante à savoir où on trouve les informations, mais elle ne les enregistre pas. Ça sert à rien de savoir où est tel pays et quelle en est la capitale, puisque tu tapes son nom sur Wikipédia et tu l'as. Ouais. Et comme Wikipédia, tu l'as dans l'ordinateur ou tu l'as dans le téléphone, tu n'as pas besoin de savoir. Le savoir, tu le promènes. Quoi. C'est des élèves qui ont Alexandrie dans la poche. Quoi. C'est vraiment... c'est ça. Donc, Et il y a une confiance complète dans la fiabilité de Wikipédia et de ça, ça pose aucun problème à personne que Wikipédia soit une telle référence. Et donc c'est des élèves qui induisent ça et des comportements d'enseignants beaucoup et de parents. Et je crois que c'est un peu, enfin je ne sais pas si ça a toujours été comme ça, je ne pense pas, mais qui veulent en permanence montrer qu'ils sont à la page. Et donc ils vont de plus en plus structurer leurs cours et leur rapport à leurs enfants ou à leurs élèves en disant, vous voyez, je connais. Donc ils vont faire référence à Lady Gaga, faire référence à Apple, faire référence à iTunes, ça va être ça. Au lieu, d'être les gardiens de la culture du classicisme, de l'ouverture à un vieux monde et à ce sur quoi on est debout, ils montrent comment ils sont adaptables à ce vers quoi on irait, quoi, en permanence. Et c'est à ces conditions-là qu'ils vont avoir l'attention d'enfants qui, eux, sont constamment sollicités par ce qui buzz. Quel est le dernier truc qui buzz? Et si le prof veut attirer l'attention de l'élève, il va parler du dernier truc qui buzz aussi. C'est, voilà, c'est un peu pathétique.
Cette évolution vers le futur, en quelque sorte programmée, c'est aussi la volonté un petit peu de ceux qui font la promotion du numérique, notamment l'État, les pouvoirs publics, le ministère de l'Enseignement, etc.
Les entreprises qui vont avec, vers une génération qui est très pratique. C'est une génération, quand on regarde ce qu'on appelle la génération Y au travail ou les digital natives, ceux qui sont nés avec des appareils numériques, eh bien, on s'aperçoit que ça pose des problèmes de travail parce que, alors qu'ils sont avec des clients ou alors qu'ils sont sur un processus de production ou dans un atelier, dans un garage, ils vont consulter en permanence leur profil Facebook pour l'actualiser ou leur fil, ou répondre en permanence à leur téléphone parce que c'est ce temps qui les structure. Et en même temps, ils vont ne pas revendiquer sinon pour des revendications individuelles, ne pas rechigner à rester pour manger ou rester pour plus tard au bureau parce qu'ils sont devant leur ordinateur et que de toute façon, s'ils rentrent chez eux, ils sont aussi devant leur ordinateur. Il y a tout un truc comme ça. Je ne veux pas non plus, rentrer dans un trop gros cliché avec cette génération parce que il y a aussi des personnes qui s'enrichissent énormément de ça. C'est-à-dire, quand je disais tout à l'heure, ils ont Babylone dans la poche, il y a aussi des gens qui en font quelque chose. Quoi. Ça, c'est, mais force est de constater que, un, c'est pas la majorité, et deux, cette technologie et l'environnement qui va avec, les plateformes, est quand même le lieu de la stimulation, de la pulsion et du visuel, de la guerre, de. Voilà. Quelqu'un écrivait que c'est la génération qui était la plus militarisée depuis la jeunesse hitlérienne. C'est aussi, par exemple, une génération qui ne fait pas son service national et qui joue à la guerre depuis qu'ils ont 6-7 ans avec des jeux de massacre, vraiment.
Ouais, je voulais reparler aussi de ce que ça induit aussi dans le vis-à-vis des professeurs. Ces derniers jours, là, tu nous as montré un petit peu les comportements que ça devait induire aussi chez les professeurs. Le côté, il y a aussi visiblement pas mal de problèmes techniques aussi autour de ce genre de nouvelles technologies.
Oui, quand tu imagines qu'un professeur aujourd'hui dans une classe, quand il n'a pas une classe où tous les élèves sont devant un ordinateur, ou qu'il n'a pas une classe dans laquelle tous les élèves sont devant leur propre ordinateur portable que leur a donné la région, que c'est vers ça qu'on va au fur et à mesure, il a une classe dans laquelle chaque élève a un téléphone ou quelque chose dans la poche qui va l'attirer vers ça. Ouais. Donc, ces élèves maîtrisent bien la capacité que cet outil donne à fuir la maison et les parents pour aller sur l'Internet, YouTube, etc. Fuir la classe pour aller regarder, jouer. Donc quand c'est pas le cas parce qu'ils ont ça dans les téléphones, le professeur se retrouve lui-même de son côté à avoir toute une batterie d'outils technologiques, donc un ordinateur en réseau, un vidéoprojecteur, des énormes baffles, cet ordinateur, il va commencer son cours en le connectant parce que cet ordinateur, c'est ce sur lequel il va faire l'appel. Il n'y a plus personne qui monte dans les couloirs. Et donc, il n'y a plus de présence dans les établissements pour venir chercher les feuilles d'appel. Les surveillants sont affectés à des tâches administratives où, en bas, ils vont appliquer le protocole qui va avec la saisie informatique des absences par les enseignants. Donc, les enseignants se connectent à l'ordinateur, puis se connectent un logiciel comme Pronote avec lequel ils vont saisir les absences et ils vont saisir ces absences-là. Alors, avec ce que ça comporte, c'est-à-dire je saisis une absence, mais c'est quoi ? C'est une absence ? C'est un retard ? Donc les parents, eux, vont tout de suite recevoir un SMS leur disant que leur fils est absent. Il est peut-être simplement en retard et le père est peut-être juste en train de l'amener en retard. Donc il y a toute une série de choses en trop. Et quand le professeur qui l'aura mis en retard, en absence, apercevra qu'il était en retard, il faudra qu'il se reconnecte pour revérifier et pour valider que l'élève était simplement absent. Et il n'a pas que ça à faire, en fait. C'est ça qui est important, c'est qu'un prof, il a déjà son cours, sa structure de cours à mettre en place, son partage à faire. Il n'y a pas en plus... Enfin, moi, je n'ai pas commencé avec l'idée que j'aurais à me battre contre les téléphones portables dans la poche et des gamins qui ont en permanence, qui regardent en permanence leurs genoux ou, comme je disais hier, qui massent leurs trousses parce que voilà, leur téléphone est dans leurs trousses. Donc, discrètement, ils font semblant de toucher leur stylo. En réalité, ils envoient des messages. Donc, nous, on a des élèves qui massent leurs trousses ou qui regardent leurs genoux simplement parce qu'ils sont en train de regarder leur téléphone portable. Et il y a une tension en permanente à essayer de fuir comme ça. Moi, mon cours, j'ai pas cette guerre à faire. Ce qui consiste à faire passer l'intérêt de ma matière et l'idée que le savoir, ça rend libre et que voilà, ce goût pour l'étude, c'est déjà suffisamment un taf, quoi. J'ai pas en plus à faire ça. Et l'autre chose qui m'ennuie dans cette situation, c'est que si je prépare un cours et que ce cours inclut un rapport à l'Internet, au réseau, etc., eh bien, je suis soumis à cet Internet et à ce réseau. Ça veut dire que si l'Internet plante pour une raison ou pour une autre, liée au lycée ou liée à toute connexion, eh bien, tout mon cours il est planté. Donc ça veut dire qu'en permanence, il faut que j'ai un plan B pour si jamais je ne pourrais pas me connecter, si jamais je ne pourrais pas avoir accès au réseau, si jamais je... Donc on met des profs en permanence en sollicitation d'une technologie, en les culpabilisant et en les faisant passer pour obsolètes, c'est vraiment en les faisant passer pour des nazes s'ils n'y vont pas, parce qu'on est rentré dans l'ère numérique, et si vous n'êtes pas dans l'ère numérique, vous êtes dans l'ère préhistorique, et on ne dit pas qu'avec cette technologie va l'accident, comme avec toute technologie, quoi. Et là, pour nous, c'est la panne, c'est le truc qui ne fonctionne pas, et à ce moment-là, il faut être systématiquement capable de revenir à un autre support, à un autre outil, on l'a pas toujours, quoi. Moi, ce que je constate aussi, c'est que chaque fois qu'on nous forme et chaque fois qu'on nous dit, qu'on nous fait cette grande déclaration, on est rentré dans l'ère numérique, à chaque fois, l'écran de vidéoprojecteur qui est derrière les gens qui parlent clignote en disant pas de signal, pas de réseau, pas de... Voilà, et ça devrait, au bout de 10 fois, on devrait pouvoir dire, voilà, c'est quand même sacrément fragile. Imaginez si vous étiez devant une classe, que ça donnerait, quoi. Voilà. Et puis, il y avait cette anecdote aussi qui s'est passée l'année dernière, c'est que dans l'académie dans laquelle je suis... Il y a eu une panne de réseau. Non, c'est pas qu'il y a eu une panne de réseau, c'est qu'on a ce système d'avoir des... Il y a des listes, il y a des sites internet qui sont blacklistés. Donc on interdit certains accès à des sites internet, des sites pornographiques, des sites violents, mais aussi l'accès à Facebook pour pas que les enfants... Ou l'accès à des sites de jeux, etc. Et pendant une demi-journée, il y a une erreur de manipulation qui a fait que les sites interdits ont été autorisés et qu'il n'y a qu'eux qui ont été autorisés. Donc ça veut dire que tout professeur qui faisait une recherche se retrouvait avec l'apparition d'images monstrueuses, quoi, d'images de pornographie, d'images de voilà, ou d'images Facebook au mieux. Et donc j'ai eu des témoignages de professeurs qui se sont retrouvés avec une grosse image pornographique en pleine salle de classe, projetée à des élèves qui, alors ça pouvait être à des élèves de 6e, ça a été à des élèves de terminale, voilà. Et les élèves sont venus dire dans un collège, par exemple, qu'est-ce qui se passe, on a accès au porno, ils sont en sixième, quoi. Ils sont en sixième. Ou alors, en terminale, la prof se retrouve avec une scène de porno projetée sur un écran vidéo gigantesque. Parce que les profs sont arrivés à ça, c'est-à-dire que les recherches qu'ils font sur Google, etc., ils les font devant la classe. Donc les résultats arrivent directement dans la classe, quoi. Et si c'est une image qui se... Bam, direct, qui arrive plein pot. Mais c'est violent, quoi. C'est-à-dire que c'est violent. Enfin, faut mesurer à quel point c'est traumatique et à quel point c'est violent et qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour accepter ce genre de situation-là, quoi. Si la prof avait rassemblé ses élèves et leur avait délibérément montré un porno, ça aurait été scandale, quoi. Ouais. Là, la technologie le fait, personne ne branche. Il n'y a pas eu une plainte, pas aucune réaction de parents d'élèves.
bête est programmée. Tu vas de plus en plus vite où la guerre est proclamée. Une guerre glaciale, de moins en moins discrète, qui s'attaque aux plus pauvres et à ceux qui refusent d'intégrer la disquette. On divise la populace, informe l'état policier. Sors des rangs, tu mangeras la matraque de l'officier. Nouvelle ordre officieux, terroriste officiel. Les gains multi pour instaurer la surveillance et la peur éteint la télé. Et leurs émissions d'arriérés éteint la télé. Avant de finir complètement aliénés, propagande de peur pour une soumission officielle. Métro pour d'odométrie fichale. Les rebelles groupes et s'entolent comme panne de disparition. Marketing pour qu'on accepte les plus dans le corps. Faut qu'on se réveille car demain sera pire encore. Les murs se resserrent, y'a de moins en moins d'espace. Réveillez-vous, ils nous ont déclaré la guerre. Réveillez-vous, peuple du monde et enfant de la terre. Réveillez-vous, avant le point de nos retours. On aura besoin de tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout. Réveillez-vous, car demain sera pire encore. Réveillez-vous, avant qu'ils nous mettent des plus dans le corps. Réveillez-vous, c'est toutes nos vies qui sont en jeu. Et pour bientôt, peuple aliéné, politique qui nous mène en bateau. Terrorisme d'état bien concis. Peuple exploité, voué à consommer ce qu'il construit. Une prison à ciel ouvert, dans le crime et la norme. Dans les frontières deviennent les barricades de la mort. Méfie-toi des miradors, des gardiens du désastre. Méfie-toi, car les arrestations deviennent des rares.
C'était Réveillez-vous de Kenny Arcana. Et vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 avec les radioactifs et les radioactives.
Et donc tout de suite, on continue cette émission avec une présentation de l'ouvrage du groupe Marcuse, La liberté dans le coma, essai sur l'identification électronique et les motifs de s'y opposer, paru aux éditions La Lenteur en 2013.
Moi je vais donc parler une vingtaine de minutes de la liberté dans le coma. C'est un livre dont l'objet de départ était apparemment plus restreint. C'est-à-dire que c'est un livre qui était censé s'intéresser avant tout aux nouvelles technologies de contrôle et de police, je dirais. C'est-à-dire la biométrie, le fichage ADN, les puces RFID, une partie des puces RFID, justement. Donc en fait, c'est un livre qu'on a fait avec l'idée, c'est un livre qui venait après une action, en fait, qui avait été menée de manière assez instinctive quelque part. Contre des bornes biométriques dans un lycée de la région parisienne. C'est pas que c'est une action qui avait été faite de manière non réfléchie, mais disons que ça traduisait le fait qu'il y avait quelque chose d'évident dans le fait que la biométrie marquait un seuil dans le déclin des libertés civiles, un seuil dans une ambiance sécuritaire et même carcérale qui envahissait la société. Et donc, bon, c'est des arguments qu'on a été amené à développer. Les personnes qui ont écrit ce livre, soit il y en a une qui était inculpée donc à la suite de cette action de destruction de bornes biométriques. Les autres étaient en soutien très proche. Et donc, on a eu envie de réfléchir, en fait, de se demander jusqu'à quel point c'était vrai le fait que, par exemple, la biométrie représentait un seuil de totalitarisme. Est-ce que c'était effectivement une technologie carcérale, concentrationnaire, qu'on essayait que ses promoteurs essayaient de faire rentrer à l'école pour la rendre plus banale, plus ludique. On a essayé de s'interroger sur, par exemple, le fichage généralisé. Quel est le problème que ça nous pose? Le fait que tout le monde soit fiché. Quel est le problème véritablement avec ça? Au-delà de quelque chose d'assez instinctif qui nous rebute là-dedans, bien sûr, et qui est légitime, enfin qui est entièrement légitime. Mais on avait envie de s'attarder là-dessus. Est-ce que les nouvelles technologies des années 2000, notamment en termes de contrôle et de police, font vraiment reculer les libertés civiles? Les libertés de s'exprimer, d'aller et venir, etc. Les libertés d'anonymat. Donc, en fait, en se posant toutes ces questions, le truc, c'est qu'on a beaucoup élargi notre objet, c'est-à-dire que c'est devenu une réflexion sur l'informatisation en général. Et puis on a aussi déplacé le problème, c'est-à-dire que notre problème de départ, c'était de savoir si la biométrie ou les puces RFID ruinaient un certain nombre de garanties contre l'arbitraire du pouvoir politique qui avait été conquise au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Et en fait, petit à petit, on s'est demandé de plus en plus, est-ce que ces libertés en fait ne déclinaient pas avant tout parce que il y avait un recul du désir et des possibilités d'être libre en général? C'est-à-dire qu'on est arrivé à une réflexion plus générale sur la liberté et la dépendance à notre époque. Et voilà, donc le questionnement c'est un peu, c'est considérablement déplacé et élargi. Donc nous, en fait, on est parti un peu dans ce livre de cette toile d'araignée que les gens du journal Z avaient édité avec Jérôme Torel dans le numéro 5, dans leur numéro 5, un supplément qui s'appelait Fichiers, bases et répertoires, premier rouage du contrôle social. Donc c'est une cartographie sympathique d'une centaine de fichiers dans des domaines comme bon, la police, bien sûr, la police ça va de soi, police, justice, mais aussi transport, emploi, logement, social, éducation, santé. C'est-à-dire des fichiers non seulement dans la main droite de l'État, bien évidemment, mais aussi un nombre incroyable de fichiers dans la main gauche de l'État, dans la main de l'État-providence. Ce à quoi il faut ajouter, bien évidemment, puisque cette carte pèse encore bien léger par rapport à tous les fichiers privés, par rapport à tous les fichiers d'entreprise, par rapport à tout ce que les entreprises amassent sur la population, sur nous tous, au fil des journées, par des études de marché, bon, de plus en plus électroniques, mais pas seulement. Et donc si on met en plus tous les fichiers dont on dispose, ne serait-ce que Google et Facebook, par exemple, cette carte se met à grandir, évidemment, de manière considérable. Donc, cette toile, on a construit le livre autour de trois questions. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? D'où ça vient? Qu'est-ce que ça nous fait? Qu'est-ce que ça nous fait réellement? Quel est le problème avec ça? Le problème politique, existentiel, humain, social. Et qu'est-ce qu'on peut encore faire contre? Est-ce qu'on peut encore s'y opposer quand on voit évidemment ça et quand on voit les données qui sont amassées par Cédric Biadini dans l'emprise numérique sur par exemple la puissance d'enregistrement d'éléments sur la consommation par Internet. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore faire contre ça? Alors, donc première question, d'où ça vient? Premier chapitre, d'où ça vient? En fait, dans ce premier chapitre, donc je passe en revue un peu les trois temps du livre, qui sont assez différents. Je serai très bref sur le dernier, parce que je pense qu'on aura l'occasion de le développer aussi en discutant. Donc je vais surtout développer les deux premiers points, les deux premiers chapitres. D'où ça vient? C'est un chapitre où on a essayé de faire une sorte d'histoire politique de l'informatique, en fait. Une histoire politique de l'objet ordinateur et de sa mise en réseau. Histoire qui établit un lien très fort entre l'informatique et la bureaucratie. On a appelé ça bureaucratie informatique, le pacte du siècle. Un siècle qui est à cheval sur le 20e et le 21e. L'idée de départ, c'est que le développement des moyens d'identification électronique est indissociable du développement des moyens de stockage et de traitement de l'information en général, c'est-à-dire de l'ordinateur lui-même. La biométrie, les puces RFID, les multiples fichiers qui sont par exemple dans ce graphique, c'est simplement la face émergée d'un énorme iceberg de bases de données qui, à notre sens, structure de plus en plus le fonctionnement réel de notre société. De la société, de l'économie, etc. Et ce développement des moyens de contrôle, qui était notre objet de départ, il s'explique donc pas principalement par des visées policières, nous semble-t-il, c'est ce qu'on a essayé de montrer, c'est ce à quoi on a réfléchi. Pour nous, c'est avant tout le résultat, c'est d'abord le résultat des impératifs de la gestion de masse, c'est-à-dire le fait qu'on vit dans une société de masse, et que ça implique un développement permanent de la bureaucratie pour gérer. On est dans un monde où la population croît constamment, où les territoires administrés par les États croissent constamment, où la production augmente évidemment en permanence. Donc la taille des États et des entreprises en tant que puissance administrative augmente. Et donc tout ça stimule la bureaucratie, la logique gestionnaire, le fait de se retrouver face à des masses de choses à gérer, des masses de données. Ça stimule le recueil d'informations, ça stimule la création de nouveaux fichiers. Et tout ça ne nous semble pas, bien sûr, donc on a, alors je vais vite, hein, bien sûr dans le livre on a essayé de faire la part des choses, de signaler aussi les moments où c'était le plus lié à des phénomènes policiers, à des logiques de maintien de l'ordre, répressives, etc., y compris contre des mouvements sociaux ou autres, ou lors de l'existence de régimes totalitaires, de régimes politiques totalitaires au milieu du XXe siècle. Mais pour nous, c'est pas ça l'axe directeur de ce qui nous arrive. Un exemple qui est intéressant, par exemple, qu'on a cherché à développer, c'est, qu'on a signalé, c'est le fait que l'invention de la machine de Hollerith, qui était un ingénieur américain d'origine allemande, qui est le fondateur d'IBM par la suite, l'invention de la machine de Hollerith, qui est en fait une machine à carte perforée, qui préfigure l'ordinateur, qui est sans doute un des objets techniques qui préfigure le plus l'ordinateur qu'on connaît depuis 1945, la machine de von Neumann, cette machine a été inventée à l'occasion du recensement, d'un recensement de la population américaine. D'un moment en fait où l'administration américaine n'arrivait plus à recenser la population parce qu'elle était devenue trop grande. C'est un pays où il y avait 50 millions d'habitants vers 1885. Or, la loi américaine voulait, la constitution américaine voulait qu'il y ait un recensement tous les 10 ans depuis la fondation des États-Unis modernes en 1876. Et ça, c'était pas du tout quelque chose de spécifiquement policier. C'était pour qu'on puisse tenir les élections, qu'on puisse assurer un fonctionnement démocratique de cette fameuse République américaine fondée par Jefferson, Lincoln et compagnie. Et donc, au bout d'un moment, c'est une constitution, c'est un système politique qui avait été pensé pour 3 millions d'habitants dans un monde où il y avait... dans un monde de villages, de petites communautés assez soudées... où il y avait des formes de démocratie villageoise, de démocratie communale, où les gens étaient souvent indépendants économiquement. Et un siècle plus tard, dans un monde secoué par des révolutions industrielles successives, par la domination croissante de l'économie, par la prolétarisation de la population, par l'arrivée par vagues massives de migrants du vieux monde, qui venaient soit parce qu'ils étaient persécutés, soit parce qu'ils n'avaient pas de moyens de survivre là où ils étaient avant. On cherche à maintenir ce système politique, à continuer de faire des recensements, et en fait on n'y arrive pas. Et donc la machine de Hollerith va permettre de continuer de faire un recensement régulier avec des nouveaux moyens industriels quoi, de recueil de l'information. Ensuite, cette machine de Hollerith, elle va être utilisée et perfectionnée dans le cadre, par exemple, de la gestion du trafic de chemin de fer aux États-Unis. Le chemin de fer, c'est le domaine d'émergence de la grande entreprise capitaliste moderne, bureaucratique, multidivisionnaire, avec des grands départements et tout. C'est le premier domaine où vraiment l'entreprise dépasse une certaine taille. Ces machines, elles vont être aussi utilisées et perfectionnées dans le cadre des assurances. Les assurances privées, bien sûr, où il y a beaucoup de gestion de paperasse, de calculs à faire en permanence pour servir des polices d'assurance aux gens. Et puis, les assurances publiques également. C'est-à-dire que les fichiers vont aussi se développer dans le cadre du développement de l'État-providence, dans le cadre du développement d'un État-providence et d'un État-ingénieur du social. Un grand moment de développement de ces machines dans l'administration américaine. Ces machines étaient surtout utilisées, en dehors de l'histoire du recensement, dans les entreprises privées aux États-Unis jusqu'en 1930. Et elles vont pénétrer l'administration publique à l'occasion du New Deal de Roosevelt, du moment où il faut penser des moyens pour secourir les chômeurs, parce que tout à coup il y a 20-30 millions de chômeurs, une pauvreté de masse que personne n'aurait jamais imaginée, etc. Voilà. Bon, ce genre d'exemple. Bon, je passe assez rapidement là-dessus pour avoir le temps de parler un peu du chapitre 2, mais en gros... un autre aspect qu'on développe, que je ne vais pas du tout développer là, c'est le fait que l'entreprise aussi, l'entreprise capitaliste, tout banalement, va être un espace de développement de systèmes d'information de plus en plus sophistiqués, de plus en plus tentaculaires, à la fois du côté de la production et à la fois du côté de la consommation. Du côté d'une production, on applique une organisation scientifique du travail avec une séparation entre la conception et l'exécution. Et puis, du côté de la consommation, avec le marketing, le développement des études de marché, etc. etc. Et effectivement, aujourd'hui, avec Internet, on arrive à un stade orwellien, enfin, où l'entreprise est devenue vraiment un espace orwellien, que ce soit dans le contrôle qui est permis, que les nouvelles technologies permettent, le contrôle permis sur les salariés, et le contrôle permis aussi sur les consommateurs, la maîtrise du marché par les grandes entreprises. Là-dessus, je renvoie... Je pense qu'il y a des bons passages dans les deux livres. Cédric a fait un gros travail là-dessus, sur ce que permet Internet aujourd'hui dans le domaine du marketing, c'est quand même assez c'est très très impressionnant. Donc voilà, on a essayé de montrer dans ce premier chapitre que la toile d'araignée, cette toile d'araignée là que je présentais, ne trouve pas sa source dans un projet policier et autoritaire, mais qu'elle résulte plutôt du fonctionnement ordinaire d'une société capitaliste industrielle où règne une production de masse, et où donc à la fois on produit en masse, on consomme en masse, on fait circuler des quantités hallucinantes de choses et d'informations, etc., etc. Et par rapport à ça, cette prolifération des fichiers, aujourd'hui, elle est logique. Dans cette organisation de la vie, à cette échelle-là, et avec ces impératifs-là, on ne peut plus logique. Alors, qu'est-ce que tout ça nous fait ? Qu'est-ce qu'on a raconté de ce point de vue ? Dans le chapitre 2, qui s'appelle « La liberté, pourquoi faire ?», en référence à Georges Bernanos. Donc, sur la question des libertés fondamentales, oui, on est d'accord pour dire qu'il y a effectivement un certain déclin des libertés civiles, des libertés, d'un certain nombre de libertés, d'un certain nombre plus exactement, parce que les libertés, par exemple, de s'exprimer, etc., ne sont pas brimées en tant que telles, mais, par exemple, les droits face à la police, les possibilités de se défendre quand on est inculpé ou quand on est témoin dans une affaire, sur toutes ces choses-là, évidemment... tout ça est constamment rogné depuis plusieurs dizaines d'années. Et là-dessus, oui, la technologie donne des sérieux coups de main. La technologie est un bon prétexte et un bon support pour l'oligarchie qui gère cette société quand elle souhaite restreindre tel et tel aspect des vieilles libertés qui avaient été conquises contre les pouvoirs monarchiques et autoritaires du vieux monde, quoi. Mais finalement... voilà, c'est pas ça qui nous semble le plus décisif avec les... On pense que ça, c'est très important. Mais finalement, il nous semble surtout que les nouvelles technologies, leur effet, c'est de vider de leur contenu, finalement, ces libertés anciennes, qui ont été conquises dans un autre monde, dans un monde où qui était politiquement différent, qui était économiquement, où la vie matérielle était organisée différemment, la vie mentale était organisée différemment. Et c'est des libertés qui ont été conquises dans des moments où il y avait des révolutions, régulièrement, il y avait des révolutions, le mouvement ouvrier qui se mettait en place ou qui menaçait la bourgeoisie, etc. Et donc il y a un certain nombre de concessions qui avaient été faites. Et le problème, c'est que ces nouvelles technologies, elles viennent vraiment raboter, siphonner ces libertés d'expression, etc. Alors ce qu'on veut dire par là, bon, ce qu'on dit là-dessus, c'est tout à fait, c'est dans le prolongement de ce qu'on dit un certain nombre de gens dès les années 60, dans les années avant mai 68, dans la critique sociale des années 60, ce qu'on dit des gens comme Castoriadis à partir de 58-60, Marcuse dans L'homme unidimensionnel, Bernard Charbonneau aussi qui était beaucoup moins connu. C'est-à-dire, ces gens-là avaient bien vu que la société de consommation ou la société industrielle avancée rendait en fait inoffensives les libertés de s'exprimer, de publier, de faire des affiches, de faire des réunions, de créer des mouvements politiques. Qu'en fait, dans une société où les gens sont de plus en plus préoccupés par le travail, par l'ascension sociale, par la quête du confort, par ces objets de consommation, produits fascinants, produits par l'appareil industriel, finalement, ces libertés, on n'en fait pas usage, et on n'en fait pas grand usage en tout cas, et elles ne sont plus dangereuses pour les puissants, alors que, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, la concession de ces libertés semblait toujours une menace immédiate pour ceux qui dominaient la société, pour les couches dominantes. Donc en fait, on reprend ce diagnostic, et ce qu'on apporte d'un petit peu original, en fait, c'est de dire qu'Internet ne fait qu'accentuer ça, en réponse un peu à tous ces discours sur Internet qui expliquent que oui, bon, c'est vrai, la télévision, la radio, les médias, les vieux médias, c'était horrible, en fait, c'était une société unidimensionnelle. Pardon ?
Verticaux, les vieux médias.
Voilà, c'était les médias verticaux, mais là, avec Internet, c'est horizontal, donc c'est démocratique, c'est libérateur. Etc. Donc on essaye de régler son compte à ces idées-là. Bon, on pourra en reparler, parce que c'est des débats malgré tout compliqués. Mais on espère avoir apporté quelques éléments là-dessus, nous aussi. Et donc, bon, l'étape qu'on vit actuellement, par exemple, c'est l'effacement complet avec Internet, à une vitesse hallucinante, un effacement quasi complet de l'anonymat, qu'on fait effectivement ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et qui ne gêne, le plus notable étant que ça ne gêne quasiment personne, enfin que ça gêne vraiment très peu de monde, que tout le monde se jette là-dedans, d'une manière qui était même, ou même dans le groupe, il y avait un peu des nuances dans ce qu'on pensait les uns les autres, même les plus pessimistes, il y a 5-6 ans, quand on a commencé à bosser là-dessus, on n'aurait pas imaginé Facebook, quoi. On n'avait pas imaginé que ça puisse aller si vite dans ce sens-là. Voilà. Et aujourd'hui, ça choque pas grand monde, il y a quelques débats là-dessus, mais c'est vraiment... Donc, d'où l'idée d'appeler le livre Essai sur l'identification électronique et les motifs de s'y opposer. C'est un livre donc, voilà, sur les techniques d'identification électronique et qui porte aussi, et peut-être avant tout, sur cette identification d'une grande partie de la population avec ses moyens de communication et d'information, qui est véritablement prodigieuse, quoi, et quasiment religieuse. Alors évidemment, on a essayé de s'interroger, notamment dans ce chapitre 2, sur pourquoi et comment, pourquoi il y a une telle fascination, pourquoi il y a une telle identification, pourquoi finalement l'ordinateur a une image... presque libertaire, quoi. Pourquoi ordinateur et internet et liberté semblent aller de pair. On a essayé de se questionner là-dessus, évidemment. Qu'est-ce qui s'est, comment on en est arrivé là aussi, comment on est arrivé là. Donc je vais présenter trois idées à ce propos qui permettent de passer un peu en revue quelques thèmes de ce qu'on a développé dans le chapitre 2. D'une part, les nouvelles technologies, un des aspects qui fait que l'ordinateur... oui, parce que donc ça n'a pas toujours été le cas, quoi. Le fait que l'ordinateur semble un objet technique porteur de liberté, ça n'a pas toujours été le cas. C'était pas le cas dans les années 50-60, où c'était un objet qui faisait plutôt peur, d'abord parce qu'il était monstrueux, il était énorme, et il était dans l'imaginaire social lié à la bureaucratie, même au complexe militaro-industriel, à l'histoire de la bombe atomique, parce qu'effectivement... les découvertes de la bombe atomique et de l'ordinateur sont allées vraiment de pair dans les détails. Et donc ça, en fait, l'opinion, on avait une certaine conscience, quoi. C'était diffus, c'était une conscience diffuse dans la société occidentale, qui fait que l'ordinateur avait une image négative. Et ça, ça a changé presque d'un coup, en fait, avec l'arrivée de l'ordinateur personnel dans les années 80, et ça a été renforcé derrière par Internet. Alors... une des premières explications, bon, il y a plein d'explications, il y a plein de choses à dire là-dessus, il y a des choses là-dessus dans les deux livres, et on dit, il y a sans doute plein d'autres choses encore, c'est que les nouvelles technologies, elles transforment notre monde d'une manière extraordinaire, extraordinairement rapide, extraordinairement profonde, mais sans atteindre notre sentiment de liberté, en tout cas notre sentiment de liberté intérieure notamment. C'est-à-dire que voilà, ça paraît pas liberticide parce que ça attaque pas notre sentiment de liberté de manière immédiate. Par exemple, beaucoup de gens, je pense qu'une très grande partie des gens peuvent être gênés, tristes de la destruction du petit commerce, de la destruction du petit commerce dans les villes, dans les villages. Ça paraît quelque chose de négatif. Évidemment, c'est très très lié aux nouvelles technologies, mais voilà, c'est pas perçu comme tel. Le fait que c'est un outil extraordinaire de mise au chômage, ça c'est un tabou. C'est quelque chose vraiment que pratiquement aucun économiste qui s'exprime dans les médias ne dit, alors que c'est une évidence assez sensible, quoi. Et puis ça favorise évidemment terriblement la concentration économique. Mais c'est pas perçu. C'est pas quelque chose de direct, faut s'attarder un peu dessus, etc. De même, le bouleversement des villes. Le bouleversement des villes depuis quelques années, quelques dizaines d'années. Le fait qu'il y ait beaucoup moins de commerce vivant au centre-ville et des énormes, que la vie économique se concentre dans des zones industrielles et commerciales en périphérie, qui sont hideuses, etc., avec des grandes chaînes. Voilà, ça, c'est quelque chose qui ne serait pas possible sans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais on n'y pense pas. Voilà, c'est pas quelque chose qui se perçoit comme ça de façon intuitive et sensible. Dernier exemple, rapidement... tout simplement le marketing, quoi. On est typiquement face à la question du marketing et de la publicité. Voilà, c'est toujours un éternel débat. Oui, est-ce que c'est vrai que ça influence les gens? Est-ce que c'est vrai que ça nous influence? Est-ce que c'est vrai que ça déforme notre libre arbitre? On peut toujours trouver des arguments pour dire que non, que mais non, mais moi je résiste à la pub en fait, c'est pas ça qui me détermine. Voilà, on essaye de réfléchir un peu là-dessus. pour considérer que si, bien sûr, c'est une puissance de transformation du contexte dans lequel on vit qui est extraordinaire et qui passe de manière relativement indolore, pas complètement, mais parce que ça ne porte pas directement atteinte, parce que c'est pas directement une manière autoritaire, quoi. Ça semble pas. C'est pas comme un pouvoir autoritaire, c'est pas comme Poutine, le Parti communiste chinois, ou c'est pas comme être en Iran et que quand deux personnes se tiennent par la main en Iran, il y a un responsable religieux qui vient les bastonner, quoi. Deuxième élément, les nouvelles technologies, elles donnent évidemment aux individus un sentiment de puissance extraordinaire qui, à notre sens, vient compenser, en fait, a d'autant plus de succès et d'autant plus perçu agréablement et jouissivement qu'il vient compenser notre impuissance profonde. Voilà, moi je dirais, plus on est impuissant, plus on se sent impuissant à avoir un peu de pouvoir sur sa propre vie et sur le contexte dans lequel on est, plus on va compenser par le refuge dans ces nouvelles technologies, dans cette puissance qui consiste à pouvoir être joint partout, fille de l'espace et du temps, à trouver n'importe quelle information, à pouvoir télécharger n'importe quelle encyclopédie, même si on est dans la forêt et qu'on a une idée tout à coup. Voilà. Donc voilà, ça nous met le monde à disposition, et ça évidemment c'est un ressort extraordinaire. C'est un ressort extraordinaire contre lequel c'est très difficile de réfléchir, d'agir et de changer les choses. Et dans cette idée, prolongement de cette idée du monde à disposition, il nous semble que les nouvelles technologies, elles viennent en fait épouser, valider, renforcer la vision de la liberté qui domine déjà depuis un certain temps dans la société occidentale, et qui pose problème, qui est le fait que la liberté, on la cherche dans la libération vis-à-vis des forces de la nature et vis-à-vis des autres humains. La liberté, c'est le fait de ne pas dépendre de la nature, des caprices de la nature, des aléas de la nature, et c'est de ne pas dépendre de figures déterminées. En réalité, bien sûr, les nouvelles technologies, c'est un monde qui nous fait dépendre, on dépend plus que jamais de la société, de la collectivité, mais on peut avoir ce sentiment de dépendre moins de personnes précises. Donc il nous semble que le type de liberté qui triomphe avec les nouvelles technologies, c'est une liberté, c'est une idée de la liberté qui consiste à se réjouir de ne pas avoir à se soucier de la vie, d'avoir à se soucier le moins possible de la vie matérielle, d'être en fait pris en charge par la société, pris en charge par cette industrie nourricière qui répond à nos besoins, à nos angoisses. Et donc à cette liberté-là, on essaye d'opposer une autre idée qui consiste à affirmer qu'effectivement on a trop souvent oublié depuis longtemps dans les mouvements sociaux, les mouvements politiques en Occident, que non, qu'il faut pas opposer la liberté et le fait de s'occuper de la vie matérielle, quoi. Et que la liberté, une liberté véritable et une réelle capacité à s'opposer aux puissants dans une société doit probablement reposer sur le fait d'avoir un minimum de maîtrise sur ses conditions d'existence, de participer directement à leur production, et non pas dans le fait de sous-traiter de plus en plus de pans de ses besoins et de ses désirs.
Donc c'était le groupe Marcus qui présentait son ouvrage « La liberté dans le coma ». Si vous avez bien suivi, il manquait le troisième élément dont il était question. C'est effectivement le dernier chapitre de l'ouvrage qui porte sur les résistances. Mais on ne vous en dira pas plus ce soir, on vous laisse le découvrir par vous-même. Et vous retrouverez cette émission sur notre site internet zoomecologie.net. Et vous pouvez également retrouver d'autres entretiens sur le sujet des résistances à l'informatisation sur le site de radiozinzine.org. Et on vous laisse tout de suite avec Musique Antilles.